je crois pouvoir dire historiquement ceci. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire.
Nous pouvons changer les conditions de la jeunesse et les conditions de la vie.
Les vrais artistes ne maîtrisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger.
Ashi Shokiro, poète armé de stylo, réserve de créativité, hangar, silo.
Rap, littérature, révolution.
Bonjour à tous, vous écoutez bien Montaigne Oiseteug sur le 102.2, Radio Canu, la plus rebelle des radios à Lyon et dans ses environs. Alors aujourd'hui, petite émission, voilà, on va changer un peu d'angle de vue, de thème, mais pas tant que ça, vous allez voir qu'on va quand même rester dans la révolution et toutes ces choses-là, avec l'invitation aujourd'hui d'un invité qui est déjà venu dans notre émission, Monsieur Le Hardy. Bonjour Monsieur Le Hardy.
Bonjour.
Et Monsieur Lardy qui avait déjà fait une émission donc sur James Guillaume, un anarchiste, et ses influences sur la République, ses amitiés avec Monsieur Buisson, pas Patrick Buisson, mais Ferdinand Buisson, voilà, qui a contribué à la laïcisation de l'école, de la République et de l'école aussi.
Oui.
Et donc on va pas repartir sur ça. Aujourd'hui, Monsieur Lardy va nous parler d'une chose tout à fait différente, puisque nous allons nous intéresser à un autre domaine d'étude, un autre espace, qui est le Japon. Et alors le Japon aujourd'hui va être vu à travers l'œil de Hayao Miyazaki. Je prononce bien Hayao, c'est...
Oui, tout à fait. Voilà. Normalement, on dit en japonais, on dit Miyazaki Hayao, ah. Puisqu'ils inversent, ils mettent le nom d'abord, mais bon, c'est pas très important de toute façon.
De Miyazaki Hayao, désolé.
On peut dire Hayao Miyazaki.
Désolé, auditeur japonais. Et donc, Monsieur Hardy va nous parler de Monsieur Miyazaki, en essayant d'analyser un peu sa pensée politique, comment il adapte sa pensée politique à son cinéma. Il va nous parler entre autres de l'écologie et du marxisme, mais il va préciser tout cela un peu plus tard. Pour l'instant, Monsieur Hardy, bonjour déjà.
Rebonjour.
Vous allez donc nous parler peut-être de Miyazaki lui-même, le personnage.
Bien, très bien. Je veux bien commencer par là. Je dirais sans doute que d'abord Hayao Miyazaki est un des cinéastes japonais les plus connus en France, puisqu'en effet, depuis les années 90, l'animation japonaise a rencontré un très important succès en France, et que Hayao Miyazaki n'est pas pour rien. Non pas qu'il aurait introduit l'animation japonaise en France, mais en tout cas, il a contribué, et ça c'est certain, à sa reconnaissance en tant que forme artistique et forme culturelle, disons, acceptable. Puisque vous savez, dans les années 80, sont arrivées en France, sur la télévision française, un certain nombre de productions d'animation japonaise qui étaient plutôt plus des séries que des films d'ailleurs, et qui pour la plupart étaient quand même d'une qualité proche de l'exécrable, voilà, avec essentiellement des histoires de robots, des histoires pour jeunes filles romantiques. Non, je vis des choses comme Goldorak, ou voilà, qui sont sans doute très bien quand on a 10 ans, mais bon, après voilà, un petit peu à autre chose.
Vous voulez dire en tout cas que Miyazaki fait autre chose que du Goldorak, qu'il ne joue pas dans la même catégorie.
Ça c'est évident qu'il ne joue pas du tout dans la même catégorie. Je sais pas, c'est comme si vous compariez, en termes de qualité cinématographique, Les Bronzés et Stalker de Tarkovsky par exemple. Enfin, ça n'aurait absolument rien à voir. Bon, cela dit, le problème avec ces productions, c'est qu'elles ont eu un double effet. C'est-à-dire qu'à la fois, elles ont permis à un public jeune de s'intéresser à l'animation japonaise, ce qui de ce point de vue là est positif, mais elles ont aussi, du moins dans leur première période, dans les années 80, braqué les critiques contre l'animation japonaise, qu'ils appelaient à l'époque, selon un terme bien connu, les japoniaiseries, qui critiquaient ces films d'animation japonais pour leur violence, leur sexisme et plus généralement pour leur bêtise crasse. Voilà. Seulement, la situation a un peu changé dans les années 1990 avec plusieurs événements. Tout d'abord, il y a un film assez important adapté d'un manga qui s'appelle Aki Akira, qui a été fait par Katsuhiro Otomo, donc en japonais Otomo Katsuhiro, qui fait toujours d'autres films essentiellement dans le domaine steampunk. et qui effectivement a frappé.
Steampunk.
Steampunk, oui.
Je connais pas, qu'est-ce que c'est?
Ah, le steampunk, c'est un genre particulier. Donc ça vient de steam qui veut dire la vapeur et de punk. Bon, voilà, je ne vous traduis pas. Donc je disais, c'est un genre particulier qui souvent en fait présente un univers qui ressemble vaguement au 19e siècle, mais avec une technologie beaucoup plus avancée qu'elle n'était, mais une technologie qui n'est pas exactement la nôtre, qui est beaucoup plus fondée sur la vapeur. Par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, vous avez beaucoup de, vous avez des dirigeables qui relient les grandes villes ensemble.
Akira,
voilà.
C'est pas le manga ou.
C'est pas du steampunk, hein, Akira.
D'accord.
Il a fait du steampunk depuis, mais non, Akira, c'est plutôt un manga futuriste. Oui,
c'est pas ce manga, j'ai une vague réminiscence, oui. Où le héros naît dans des toilettes ou quelque chose comme ça.
Ça, je ne sais pas, parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu. Je dois dire que j'ai des souvenirs quand même assez imprécis d'Akira. Là, c'est plutôt une sorte de petite histoire de.
D'accord, non, mais.
Voilà. De l'animation japonaise en France. Et donc, bon, ça c'est le premier événement. Il y avait eu aussi la sortie assez timide sur les écrans français de Porco Rosso. Je crois que c'est sorti en 93 avec malgré avec des doublages
de Hayao Miyazaki.
Voilà, de Hayao Miyazaki, qui a avec des doubleurs quand même relativement prestigieux entre guillemets pour l'époque. Bon, vous aviez par exemple Jean Reno qui était un acteur assez à la mode à l'époque, qui justement avait doublé Porco Rosso. Il avait bien doublé d'ailleurs, je tiens à le dire. Et bon, mais ça encore, c'était quand même resté relativement marginal. C'était passé inaperçu. La sortie de Princess Mononoke commence un petit peu à changer la donne, parce que Princess Mononoke est sortie en 1997 au Japon, donc c'est l'un des films, si ce n'est le film le plus célèbre de Hayao Miyazaki. Et il est sorti en France en 2000, donc avec un certain temps de retard, même beaucoup de temps de retard. Et déjà là, pour une fois, la critique Télérama, par exemple, qui passait son temps à attaquer, qui était à la pointe du combat contre les japonaiseries, ont été absolument bluffés par ce film en disant qu'il était absolument extraordinaire et qu'ils voyaient pour la première fois une forme d'animation japonaise, oui, véritablement pour adultes et avec une qualité graphique, une subtilité du propos qui les avait beaucoup touchés. Voilà, donc là déjà il commençait à se faire un nom, mais je pense que vraiment le tournant capital, c'est l'année 2001 avec l'attribution de l'Ours d'Or au Festival de Berlin à un autre film de Hayao Miyazaki qui est Le Voyage de Chihiro. Sen to Chihiro no Kamikakushi en japonais. Voilà, Kamikakushi, c'est je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est une sorte de voyage un petit peu dans le monde des esprits. Enfin, c'est quelque chose de spécifiquement japonais, il n'y a pas de traduction exacte, donc ils ont abrégé en appelant ça le voyage de Chihiro. Voilà,
c'est une traduction assez éloignée.
Non, pas tant que ça, mais bon, voilà, c'était relativement, enfin c'était plus fidèle que l'espèce de jeu de mots un peu douteux qu'avaient fait les traducteurs anglais, qui avaient appelé ce film Spirited Away, puisque un jeu de mots entre Spirited avec les esprits et Spirited Away disparaître, se faire enlever. Voilà, donc c'est bon. Voilà, je pense que les traducteurs français étaient un peu plus calmes, un peu plus zen, dirons-nous, que leurs homologues anglais. Voilà. Donc ce film a en tout cas véritablement changé la donne, puisque l'animation japonaise a eu ses lettres de noblesse avec ce film, et depuis est considéré comme un média digne d'intérêt et même un sujet d'étude maintenant. Voilà, on peut faire même à l'université des thèses sur l'animation japonaise, ce qui aurait été beaucoup plus difficile avec les productions des années 80, et en même temps on comprend pourquoi. Voilà.
Pas de thèse sur Goldorak, donc.
On peut faire ce qu'on veut, il y a des thèses sur toutes sortes de sujets bizarroïdes, donc pourquoi pas. Mais enfin, bon, personnellement, c'est pas moi qui me lancerai dans cette aventure. Voilà.
D'accord. Et donc, alors, mais oui, là, vous nous avez un peu tracé l'histoire de l'animation japonaise, mais qu'en est-il de Miyazaki lui-même.
Alors, Miyazaki lui-même. Donc, Miyazaki est né, à Tokyo, il me semble. Je crois que c'est bien la ville de Tokyo. Mais en tout cas, là, je suis sûr de la date, il est né en 1941. Donc, en pleine Seconde Guerre mondiale. Voilà, d'un père, c'est assez important pour la suite, s'occuper de la fabrication d'avions. Justement, il y a une entreprise de fabrication d'avions.
D'où un peu les films plus tard.
Exactement, qui a contribué notamment à la fabrication du funeste Zéro, qui était un des avions japonais les plus connus de la Seconde Guerre mondiale, qui ont participé donc à. Enfin, qui ont même contribué à la destruction de Pearl Harbor. Voilà. Voilà. Donc ensuite, lui, il a fait, et là c'est aussi intéressant pour son parcours, en fait, il n'a pas fait au départ d'études de cinéma. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il a fait au départ des études d'économie. et d'économie politique. Donc voilà, donc on voit
le marxisme se rapproche.
Oui, le marxisme se rapproche d'autant plus qu'il comme il a grandi dans les années 50, il fait partie de cette génération d'étudiants qui dans les années 1960 ont lutté contre le renouvellement de ce qu'on appelait l'ANPO, c'est-à-dire le traité de sécurité nippo-américain. Alors c'est assez particulier puisqu'en fait après le départ officiel des Américains en 53, je dis bien officiel, puisqu'ils ont quand même gardé jusqu'en 1972 l'île d'Okinawa. Ce traité donc permettait au Japon entre guillemets d'être protégé par les Américains et leur imposer toutes sortes de facilités pour créer des bases. Par exemple, si le Japon avait voulu je ne sais pas moi installer des bases d'un autre pays, je ne sais pas mettons australien, j'en sais rien, il aurait fallu d'abord selon ce traité demander l'aval des États-Unis pour installer d'autres bases militaires qu'américaines au Japon. Donc en fait, c'était mettre le Japon sous une forme de tutelle américaine tout à fait directe, voilà. Sur le plan militaire. Voilà. Donc il a lutté contre ce mouvement avec d'autres étudiants. Et d'ailleurs,
sans
succès, comme tous les mouvements contre le traité nippo-américain. C'est un peu le drame de la gauche japonaise. Ils ont souvent des idées intéressantes, mais ils rencontrent peu de succès ou des succès faibles. Et donc du coup, cette génération notamment était assez connue au cinéma, puisqu'elle a été, ses échecs ont été dépeints par un cinéaste japonais assez enragé qui s'appelle Nagisa Oshima, Oshima Nagisa, qui est l'auteur de films assez connus comme par exemple L'Empire des Sens, Furio, La Pendaison, etc. et qui a fait un film justement dont le titre reprend celui d'Alain René, qui s'appelle Nuit et brouillard du Japon, et qui raconte justement l'échec de cette génération à travers un prisme particulier qui est le rôle assez trouble qu'a joué le Parti communiste, c'est-à-dire qui, disons, a voulu par moment un peu tempérer le mouvement, enfin qui était surtout, plus que sa ligne politique un peu contradictoire, qui était surtout extrêmement inféodé aux consignes soviétiques. Et donc,
pourquoi les consignes soviétiques ne tendaient pas à nuire aux Américains?
Non, je dis pas qu'elles ne tendaient pas à nuire, je dis simplement que stratégiquement, ils n'avaient pas la liberté de proposer ce qu'ils voulaient en fonction du terrain, par exemple. C'est-à-dire qu'ils devaient, se plier aux consignes soviétiques. Si les soviétiques disent, bon, participe à telle manifestation, on y va. Sinon, on ne participe pas. Enfin, bon, voilà. Donc, quand vous avez un mouvement qui est fondé sur des consignes extérieures qui sont souvent assez contradictoires ou qui essayent un petit peu de ménager, une forme d'équilibre durant la guerre froide, ça peut poser problème pour la réussite d'un mouvement. D'accord. Par opposition à un mouvement autonome, c'est ça que je voulais dire. Après, moi, je suis plutôt spécialiste du Parti communiste japonais, je peux pas vous dire exactement quelle était sa ligne jour par jour. Voilà. Enfin, en tout cas, Oshima a dépeint l'échec de cette gauche japonaise. Voilà.
Donc, on a un Miyazaki assez engagé, c'est ce que...
Tout à fait, oui. Bah, comme beaucoup d'étudiants de sa génération, il est marxiste, il souhaite la transformation du Japon. Voilà, alors après, son marxisme, c'est assez compliqué de le savoir, puisque, bon, il n'a jamais exactement précisé quel était son marxisme aujourd'hui. Il se revendique toujours de la pensée de Marx, bien que plus du marxisme, et j'expliquerai cette nuance tout à l'heure. Seulement, il n'a jamais précisé si son marxisme consistait à soutenir l'Union soviétique. Enfin, actuellement, il a toujours des propos très antisoviétiques, y compris dans les années 80-90, donc je pense que c'était pas tout à fait ça. Je n'ai jamais rien entendu par rapport au maoïsme de sa part, si ce n'est qu'il avait eu une forme de dégoût quand il avait vu pour la première fois un reportage sur Mao, en fait, dans les années 60, en voyant cette espèce de personnage qui lui avait semblé extrêmement antipathique au premier abord, avec une voix assez laide, bon voilà. Mais il dit lui-même avec une once de regret que d'autres militants lui avaient ensuite dit que c'était une personne tout à fait respectable qui luttait pour son peuple et que du coup il avait oublié ses critiques, et il dit donc a posteriori j'aurais dû me fier à mes premières impressions. Donc ça, je ne sais pas si c'est un aveu d'une...
Il faut voir quel type de film il a vu aussi.
Oui, bien sûr. Non, mais là il s'agit d'un documentaire visiblement qui émanait de la propagande chinoise, d'après ce que j'ai compris.
Ah, d'accord.
Voilà, je pense. Non, c'était pas un film américain sur...
Raté.
Oui, enfin, documentaire, c'est pas vraiment un documentaire, c'est plutôt de la propagande, mais en tout cas c'était assez intéressant de ce point de vue là. Voilà. Donc après, par rapport à sa formation, donc il avait quand même une passion depuis tout petit pour le dessin, et donc il expliquait que quand il suivait ses cours d'économie, il dessinait et il voulait faire des mangas en quelque sorte, voilà. Et donc pour cela, il va finalement abandonner ses études d'économie et entrer au fameux studio Toei, qui est l'un des premiers studios d'animation japonaise qui ont qui ont produit des films qui sont peut-être pas très connus aujourd'hui, mais qui en tout cas ont marqué leur époque, comme par exemple Le Serpent Blanc, qui avait énormément touché Miyazaki et qui avait en quelque sorte décidé de sa vocation d'animateur. Il déclarait qu'il était sorti de ce film, il avait 18 ans, en pleurs, amoureux de l'héroïne, voilà, avec voilà une forme de romantisme qui lui est propre, et donc voilà, il est entré dans ce fameux studio. Voilà. Pour la première partie de, enfin pour le début de sa vie, voilà.
Donc son marxisme, vous n'avez pas encore défini clairement, parce que vous pensez y revenir, parce que vous pensez que c'est pas le moment de le faire, ou
ah je peux le définir clairement. Je pense que son marxisme en fait est assez particulier. Je pense que d'abord que c'est un marxisme que je qualifierais de générationnel, parce que le marxisme à ce moment-là au Japon, d'après ce que j'ai vu, était assez composite, puisqu'il y avait à la fois l'arrivée des doctrines un petit peu tiers-mondistes de Sartre. Voilà, avec notamment Frantz Fanon et des gens comme ça. Et puis également, c'était un outil de critique, je pense, assez radical pour penser les structures sociales japonaises. Parce que le marxisme, il est arrivé au Japon dès les années 1900, bien qu'il ait été pendant très longtemps très secondaire par rapport à l'anarchisme. C'est avec les succès de la révolution bolchevique que le marxisme a pu séduire bien davantage une frange d'intellectuels qui était au départ beaucoup plus séduite par l'anarchisme ou l'anarcho-syndicalisme, comme par exemple un anarchiste qui a été tué en 1923 lors du tremblement de terre du Kanto, qui s'appelait Sakae Osugi, qui était un bakouniniste de choc, je dirais.
D'accord.
Voilà, très critique de la révolution bolchevique d'ailleurs. Voilà.
Mais Miyazaki n'a pas du tout été intéressé par l'anarchisme, lui c'est le marxisme.
Ça, je ne sais pas. Je pense que la visibilité de l'anarchisme dans cette époque-là était compliquée. Peut-être qu'elle l'a été moins dans les années 70, parce que c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que vous avez dans les années 50 en France également, disons, un certain attrait pour l'anarchisme avec des gens comme Georges Fontenis qui ont tenté de présenter des listes anarchistes aux élections, par exemple, enfin une certaine visibilité médiatique. Mais le mouvement anarchiste, je pense, était beaucoup plus fort autour de 68. Que dans les années 50 exactement. Voilà, il y a eu un attrait pour l'anarchisme beaucoup plus fort qui est revenu dans ces années-là. Voilà, exactement. Et je pense qu'au Japon, c'est un peu pareil. Mais encore une fois, son marxisme est particulier au sens où, peut-être plus qu'une grille de lecture socio-économique qui est présente, c'est aussi une forme de doctrine, je dirais, quelque peu messianique. Alors là, ça pose un problème parce que le marxisme en soi n'est pas vraiment un messianisme, sauf à considérer que le prolétariat serait une forme de messie collectif. Et avec Miyazaki, c'est un peu cela. C'est-à-dire qu'on a une forme de messianisme prolétarien qui peut, disons, se traduire par des personnages types, en quelque sorte. Je pensais par exemple au héros d'un film qu'il n'a pas réalisé, mais auquel il a contribué, qui s'appelle Horus, Prince du Soleil, qui est sorti en 68. Ou par exemple encore au jeune ouvrier qui est le Pazou dans Le Château dans le Ciel, qui est peut-être un de ses derniers films où on voit un peu cette trace du marxisme par rapport à la solidarité qu'ont les ouvriers entre eux. Voilà, l'espèce de société ouvrière qui, malgré la dureté de ses conditions de travail, a une solidarité et en même temps une forme, disons, de courage, voilà.
Mais ce que vous voulez dire, c'est que son marxisme messianique serait retranscrit dans ses films par l'incarnation de ce messianisme dans un personnage un peu type qui...
Oui, bah, c'est aussi
un peu le personnage du sauveur.
Oui, bien sûr. Tout à fait, puisque son marxisme, à mon avis, enfin, tel qu'il l'entendait, en tout cas, parce qu'après, je ne sais pas s'il était, quel était son degré de lecture, je sais pas du tout quel auteur marxiste il a lu. En tout cas, moi, j'ai plutôt l'impression que son marxisme était quand même fortement idéaliste, d'une certaine manière.
D'accord, voilà. Ben, très bien. Alors on va partir sur ça pour le début. On va faire une première pause musicale et on va rentrer plus profondément dans les films après ça.
Just mange et dépend de ses finances. Comme elle voit pas que j'avance, elle me dit c'est ça la France. Elle dit tu pionces trop, tu dépenses trop. J'ai dit quand je fais rien je bosse, elle dit tu bosses trop. Alors je pars dans la ville et je longe les pavillons avec papier et crayon en cas d'inspiration. Et comme les poètes je cours derrière les papillons. Et j'arrive près des blocs à court de respiration. Et là les mecs disent wesh mec tu veux de la beuh. Moi je dis quand y'en a pour un et ben y'en a pour deux. Et là il sort une plaque et me met les menottes. Me laisse seul en cellule, je crois qu'il me boycott. Boycott. Je serai dans le top 50, mais ma maman s'en fout comme de l'an 40. Le seul groupe qu'elle adore s'appelle UB40. Et quand elle me voit en bas, elle me dit Mich 40.
Elle a pas écouté le CD que mon pote a gravé.
Son père connaît Drucker, c'est succès assuré. Je vais faire école des fans, le théâtre de l'Empire. Et si on a de l'audience, les gars, j'achète un empire. Je me lève le matin et puis j'ai le sourire. Arrive à la NPE et me met à rire. Elle me dit qu'est-ce que tu veux faire, je réponds physicien. Je viens de rêver d'être musicien et ça ne rime à rien.
D'écouter MC Solar Today is a good day sur l'album Maxis sur Radio Canu, émission Mountain Was a Thug, rap, littérature et révolution. Alors je suis totalement confus, j'ai oublié de dire que pendant cette première partie d'émission, le docteur, l'éminent docteur Bertrand Fibien était avec nous, était parmi nous. Bonjour monsieur Bertrand Fibien.
Et bonjour.
Il a évidemment écouté, analysé les paroles, le discours de monsieur Le Hardy et contribuera à la puissance intellectuelle de cette émission, je n'en doute pas. Donc alors monsieur Le Hardy nous a retracé un peu le parcours à la fois de l'animation japonaise, sa réception en France, et du jeune Miyazaki Hayao. Puisqu'il faut dire donc Hayao en deuxième hein, quand on parle japonais, qui donc a été jeune, influencé par le marxisme et qui a eu sa première grande lutte politique, on peut dire, contre l'Anpo. Alors peut-être vous voudrez continuer ce parcours politique.
Oui, alors après, par rapport à des actions, disons, politiques directes, je pense qu'il faut attendre les années 90-2000 pour le voir re-rentrer à nouveau dans la scène politique à part entière. En revanche, à une exception près, c'est qu'il ne faut pas oublier, et qui est quand même une exception très importante, c'est que, à partir du moment où il est entré à la Toei, en 1964, il est devenu le président du syndicat des employés de la Toei.
Président, c'est pas rien.
Voilà. Oui, président, c'est pas rien, effectivement, il a été élu et il avait comme vice-président quelqu'un qui est un peu plus âgé que lui et qui a été, je sais pas si on peut dire son maître, mais en tout cas qui l'a beaucoup influencé, qui s'appelle Isao Takahata, Takahata Isao.
C'est lui qui a fait
en France.
Le tombeau des Lucioles.
Exactement, exactement, lui-même.
Film à ne pas voir parce qu'on pleure toute la nuit.
Film à voir parce que c'est un des meilleurs films sur la Seconde Guerre mondiale. Même si son auteur, qui est un maniaque perfectionniste, le qualifie de raté, mais enfin bon, peu importe. Voilà.
Non, il est pas raté.
Film à voir absolument. Et qui, justement, lui aussi, je pense, a contribué à l'éducation politique de Miyazaki. Pour une raison simple, c'est que Takahata est extrêmement francophile. Et donc, lui a étudié la littérature française à l'université. Et pas n'importe quelle littérature, c'est-à-dire la littérature de Jacques Prévert, l'œuvre de Jacques Prévert.
Ah, il a des bons goûts.
Oui, il a des bons goûts, et donc du coup, avec toute cette influence politique, en quelque sorte, du surréalisme, qui est très importante, parce que je peux pas dire que le surréalisme influence directement Miyazaki. En revanche, je pense que Takahata a pris, je ne sais pas si on peut dire le surréalisme, mais en tout cas l'espèce de réalisme merveilleux de Prévert, qui vient lui-même du surréalisme, même s'il a pris des distances personnelles avec André Breton. Et on retrouve cette influence, puisque bien sûr les deux ont tous les deux vu, et ça les a beaucoup marqués, un film qui a existé en deux, enfin de deux manières, c'est-à-dire dont une première version est sortie dans les années 50, 52, 53, je ne sais plus, qui s'appelle La Bergère et le Ramoneur, de Paul Grimaud et Jacques Prévert, qui a été refait avec les mêmes dialogues juste après la mort de Jacques Prévert. Jacques Prévert est mort en 77 et qui est sorti au début des années 80, qui s'appelle Le Roi et l'Oiseau, que vous avez peut-être vu, qui est un des films d'animation les plus célèbres et les plus magnifiques qui se puissent trouver. Voilà.
Ouais, Monsieur Fibien a l'air de l'avoir vu. Voilà.
Quelques mots peut-être, Monsieur Fibien, sur ce film.
Très bien, oui.
Voilà.
Un chef-d'œuvre.
Ouais, si on veut. Mais un film d'animation à voir.
Oui, absolument, avec l'alliance entre la très belle animation de Paul Grimaud et puis tout le génie du dialogue et du jeu de mots propre à Jacques Prévert. Voilà, vraiment un très très beau film.
Et donc, alors, qu'est-ce que ça fait cette influence française sur Hayao Miyazaki? Est-ce qu'on peut leur voir ces films?
À proprement parler française, je ne sais pas. Je sais qu'il est très intéressé, ça on en reparlera avec Porco Rosso, un certain nombre d'épisodes de l'histoire française, dont La Commune de Paris. Voilà. Épisode fondateur. Nous sommes tous d'accord autour de cette table. Et d'autre part, peut-être qu'on pourrait plus généralement parler, dans le cas de Miyazaki, d'une influence européenne plus que française spécifiquement, d'accord, alors que l'influence de Takahata, je pense, est plus spécifiquement française. En tout cas, je pense que Takahata a permis de lui ouvrir un certain nombre de perspectives et de l'amener à élargir son horizon intellectuel. Et puis également, ils se sont rapprochés dans un certain nombre de luttes sociales, menées par ce syndicat, puisque c'était l'époque où vraiment il y avait un syndicalisme au Japon qui était, je ne sais pas si on peut dire assez fort, mais en tout cas qui n'hésitait pas à mener des actions et à combattre, on peut dire, puisque faut pas oublier que le Japon a quand même eu des mouvements étudiants qui vraiment n'avaient rien envié à ceux de 68, sauf qu'ils se sont sans doute éteints plus vite qu'en France, mais qui ont eu des années de lutte très très importantes dans les années 60, vers 68, 69, 70, et qui se sont éteints également pour une autre raison, c'est que le fait qu'une partie de ce mouvement a basculé dans le terrorisme, ce qui n'a pas été le cas en France, et qui du coup a...
C'est discrédité.
Auprès de l'opinion, je pense que ça a leur aliéné un certain nombre de soutien, plus bien sûr la pression médiatique qui faisait tout pour les décrédibiliser d'une certaine manière. Voilà.
Donc on va peut-être en venir à ce qui est au cœur de l'émission d'aujourd'hui et qu'on a encore que très peu évoqué. L'écologisme de Hayao Miyazaki, écologisme, la pensée écologique, pourrait-on dire.
Plutôt.
Plutôt. Dans les films d'Hayao Miyazaki. Alors peut-être, allons-nous parler aujourd'hui du film Nausicaa, que vous m'avez dit en off, qui était considéré un peu comme la superstructure.
Le manga, pas le film en fait.
Plutôt, manga,
parce que c'est un manga et un film à la fois. Non, c'est pas grave.
Et on doit distinguer les deux.
Tout à fait, très important.
Qui n'ont pas la même fin, qui ne
disent pas la même chose. Oui, tout à fait.
Donc on peut commencer peut-être sur Nausicaa.
Oui, alors avant Nausicaa, peut-être, je m'égare un petit peu, mais j'avais quand même de précisions à faire. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même produit deux films, participé à deux films quand même importants. Tout d'abord, le premier, j'en avais parlé, c'est Horus, Prince du Soleil, qui est sorti en 1968, qui était un film d'animation très ambitieux, qui a été produit dans des conditions très difficiles, puisqu'ils ont été rétrogradés, d'ailleurs, après avoir fait ce film Takahata et les Miyazaki par la Toei. Parce que la Toei n'a pas du tout apprécié le ton du film qui, même si c'était quand même un dessin animé pour les enfants, évoquait d'une manière sous-jacente notamment la situation au Vietnam et était quand même un film assez politique et messianique aussi à sa manière. Donc du coup il y avait eu un certain nombre de tensions sociales. Et puis il y a une autre série qui commence à manifester, disons, les talents de Miyazaki comme réalisateur, puisqu'il a travaillé essentiellement sur des séries des séries d'animation, qui est un genre très prégnant au Japon et beaucoup moins en France, dans les années 70. Donc deux séries, plusieurs séries à retenir, je vais pas toutes les citer, mais en tout cas une en particulier qui est importante, qui s'appelle Conan le garçon du futur, qui en fait est une série qui se passe également dans une sorte de monde post-apocalyptique qui lui permet d'aborder un certain nombre de thématiques.
C'est déjà... Donc ce sont un peu les premiers films où on voit poindre la patte de Miyazaki.
Exactement, enfin c'est pas une série d'animation, mais et après une autre série dont il a fait un film justement, qui s'appelle, on retrouve l'influence française, Les Aventures de Lupin 3. c'est-à-dire le petit-fils ou l'arrière-petit-fils, je ne sais plus, non, le petit-fils exactement, du fameux Arsène Lupin.
D'accord.
Qui aurait eu à un moment, enfin en tout cas, une aventure avec une japonaise, ou je ne sais pas, son fils aurait eu une aventure avec une japonaise, voilà. Et donc du coup, c'est une sorte de brigand qui en fait change un peu de trait sous la patte de Miyazaki, puisque au départ, bon, c'est un personnage assez vulgaire, cynique, qui utilise les femmes, très drôle d'ailleurs, très immoral justement, et Miyazaki en quelque sorte le transforme bien davantage dans un film qu'il a adapté, enfin qu'il a créé pardon, qui s'appelle Le Château de Cagliostro, qui sortait donc en 79. Il le transforme en personnage certes toujours extrêmement ironique, très révolté, mais qui également a un petit côté Robin des Bois en quelque sorte, redresseur de tort, justicier, enfin voilà, que n'avait pas forcément le Lupin créé par je parle pas le Lupin de Maurice Leblanc, mais le Lupin de la série animée du départ. Voilà, donc là on voit déjà une sorte d'influence politique. Et d'ailleurs il y a une critique de l'URSS dans ce film à un moment, dans le château de Cagliostro, où le représentant soviétique lors d'un meeting est représenté comme une espèce de personnage extrêmement cynique et qui bafoue allègrement les principes du marxiste-léninisme. Enfin bon, voilà, dans une courte séquence. Enfin, vous le remarquez pas si vous regardez le film comme ça pour vous amuser, mais si vous êtes un peu attentif, effectivement, vous pouvez voir qu'il y a une petite critique sous-jacente de la politique des blocs, en tout cas, des Américains et des Soviétiques. Voilà. Seulement après, le film très important dont vous parliez, c'est Nausicaa. Parce qu'en fait, Nausicaa, donc ça commence exactement en 1982, c'est un manga post-apocalyptique, qui est un manga très particulier, puisque selon nos codes, selon la vision qu'on a du manga, ça se rapprocherait plus du roman graphique que du manga proprement parlé, ne serait-ce que par la surabondance de texte, mmh, et par exactement la qualité d'illustration des images.
C'est dessiné par Miyazaki.
C'est dessiné, écrit par Miyazaki. Il a mis beaucoup de temps. Il a commencé le manga en 82, ça s'est terminé en 94.
Ouais, donc 12
plus
ans.
Plus de 10 ans, c'est quand même beaucoup, beaucoup pour un manga, et surtout pour un manga qui n'était pas du tout comme les productions qu'on voit aujourd'hui, qui sortent par exemple un chapitre par semaine. Oui, c'était en général deux chapitres derrière par an, voilà. Et c'était beaucoup plus, beaucoup mieux travaillé. Et d'ailleurs, la qualité graphique est assez exceptionnel, voilà. Et devant le succès de ce manga, dont je vais expliquer le scénario dans un instant, un film est sorti en 1984, qui est un petit peu ce qui a rendu célèbre Miyazaki, puisque ce film a été un succès populaire.
Qui l'a rendu célèbre au Japon.
Au Japon, bien sûr, oui. Mmh. Ce film a été un succès populaire absolument énorme, à tel point d'ailleurs qu'on a pensé à sortir une version internationale, mais qui en fait a été tellement charcuté parce qu'on pensait que le propos était trop complexe pour être compris, donc ils ont refait des séquences, ils ont incrusté des sabres laser sur l'affiche au personnage, pourquoi pas, c'était la grande époque de Star Wars, allons-y, bon. Et puis du coup, justement, c'est pour ça aussi qu'il n'est pas devenu connu avant, qu'il n'a pas pu avoir une certaine notoriété avant un certain temps. Parce que précisément, il n'a plus voulu sortir ses films à l'international pendant longtemps, à la suite de cette adaptation qui tenait vraiment du charcutage, un charcutage radical, on va dire.
D'accord.
Voilà. Donc le scénario de Nausicaa. Nausicaa, c'est un manga post-apocalyptique qui se passe. Donc ça, le post-apocalyptique, pardon, je reviens, c'est un genre assez particulier qui est quand même très prégnant dans la culture populaire japonaise depuis la catastrophe nucléaire, c'est-à-dire le Hiroshima et Nagasaki. C'est deux bombes atomiques qui ont été lancées à l'été 45 sur deux villes japonaises. Et donc du coup, c'est l'idée d'un monde où en fait la technologie humaine, la technologie atomique nucléaire, aurait anéanti non pas la totalité de l'humanité, mais en tout cas la civilisation humaine telle que nous la connaissons la plupart du temps. Dans le post-apocalyptique, il y a des groupes humains qui sont souvent extrêmement divisés, qui se battent entre eux, une partie de l'humanité est revenue à l'état sauvage. Enfin, vous avez en général ce genre de choses. Vous pouvez le voir dans des choses comme, par exemple, qui sont pas d'une extraordinaire qualité à mes yeux, comme Ken le Survivant, qui sont des mangas assez populaires, où justement là ça illustre
tous
tout à fait
tous les bons mangas, tous les trucs que je lis, vous trouvez ça populaire en fait.
Ah non, j'ai pas dit que c'est non, il y a des mangas populaires qui sont très bons. Je n'ai absolument aucun snobisme par rapport à ça, c'est juste que je trouve ce manga mauvais, c'est tout. Mais après ça, voilà, on va pas faire un débat là-dessus, c'est pas le propos.
Là, on s'égare. Moi, je voulais venir à l'écologie.
Voilà, à l'écologie. Donc en fait, la particularité de ce manga, c'est que précisément, il expose des thématiques politiques et écologistes, puisque à ce moment-là, le marxisme et l'écologie ne sont pas contradictoires dans la pensée de Miyazaki, alors qu'ensuite, sa critique du marxisme par l'écologie rendra ces parallèles peut-être un peu plus délicats. D'accord. Donc en fait, l'idée de Nausicaa, c'est un monde où une sorte de catastrophe nucléaire a eu lieu, qui s'appelle les 7 jours de feu, et où l'humanité donc n'est pas revenue à l'état sauvage, mais a été réduite d'une manière drastique. Donc il reste sans doute quelques millions d'individus, guère plus. Et la majorité du monde est occupée par une sorte de forêt toxique. Voilà, qui la mère de décomposition, je sais pas si c'est une référence à la mère de fertilité de Yukio Mishima, à voir, je ne sais pas. Et en tout cas, cette mère de décomposition est totalement inhabitable par l'homme, puisqu'elle est dangereusement toxique, justement. L'air n'est pas respirable, elle est peuplée d'insectes mutants absolument gigantesques, donc voilà, ça crée tout projet de colonisation impossible. Et à côté, mais malgré cette catastrophe, l'humanité, disons, n'a pas vraiment changé, et il y a toujours deux grands empires qui s'affrontent, l'empire d'Orok et l'empire Tolmek. Donc l'empire d'Orok est une théocratie dirigée par les saints empereurs, qui sont immortels, enfin même si le premier est mort accidentellement, voilà, et qui sont des personnages assez négatifs et qui instrumentalisent la religion pour exploiter leur peuple. Et à contrario, l'empire Tolmek est un empire de type féodal dirigé par un empereur, enfin ça ressemble un petit peu à une forme d'Europe médiévale fantasmée avec un saint empereur romain germanique qui aurait beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en avait véritablement à l'époque.
Encore on trouve un peu l'opposition de deux blocs là-dedans.
Ouais. Exactement. Mais c'est justement, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que même si en fait il n'y en a aucun qu'on puisse directement superposer avec les États-Unis ou l'Union soviétique, c'est une critique très claire des blocs américains-soviétiques et du fait justement que malgré des idéologies professées qui serait apparemment contradictoire, en réalité il y a une forme de communauté de vue et d'impérialisme commun, surtout puisque ce sont toujours les petites nations qui sont prises entre deux feux, dont la nation de l'héroïne Nausicaa, qui est une référence à l'héroïne de l'Odyssée, qui s'appelle la Vallée du Vent, et qui est justement soumise un peu comme le Japon, j'allais dire, avec le traité de sécurité dont je plaisante, mais voilà, aux forces militaires Tolmek qui peuvent décider tout d'un coup de faire de la conscription et d'ordonner aux hommes de la vallée de partir en guerre ou de la conquérir tout simplement. Enfin voilà, donc.
Donc Nausicaa dans tout ça, qui c'est ?
Qui est Nausicaa ? Nausicaa, c'est, alors ça pose aussi, ça lui avait posé des problèmes justement parce que c'est une princesse, et donc il se demandait si c'était marxistiquement correct, si on peut dire, et finalement, bon, il s'est dit que c'était peut-être pas très grave et que c'était plus par communauté narrative. Nausicaa, c'est la fille du roi de la Vallée des Vents, même si en réalité, si elle est princesse et si son père est roi, ça n'a pas grande importance puisque la Vallée des Vents est tellement minuscule qu'en réalité.
Elle fait partie un peu de ce tiers-monde.
C'est ça, en réalité, c'est la fille du maire, enfin, si vous voulez, on va dire que c'est une mairie héréditaire et que, enfin, je veux dire, ils sont tellement peu nombreux qu'il y a, on peut même pas parler d'exploitation de tyrannie parce que c'est un groupe humain tellement minuscule que voilà, en fait c'est plus c'est plus une fille de notable que enfin elle est princesse, mais c'est voilà, oui, la princesse Nausicaa, c'est une jeune fille très particulière qui a une grande compassion pour à peu près toutes les formes de vie, qui d'ailleurs est en un sens assez christique justement, donc on retrouve toujours cette espèce de thématique du messianisme, et qui a une très grande intérêt pour la forêt toxique et pour essayer de comprendre, disons, qu'est-ce qui se joue, pourquoi cette forêt se répand, ce qui se joue là-dedans, et d'essayer de comprendre un petit peu les formes de vie qu'elle abrite. Voilà. Voilà, voilà.
Mais donc, qu'est-ce qui se passe alors ?
Ah ! Dans le manga ou dans le film ?
Ah, bah, dans ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire dans le
et
manga.
Eh bien, en fait, dans le. Bon, pour aller aussi, parce que les intrigues se recoupent, et eh bien, tout simplement, elle verra involontairement son pays se faire conquérir par l'Empire Tolmek. Et elle sera obligée en quelque sorte de s'enfoncer un peu plus loin dans la forêt et de comprendre exactement ce qui se joue, et elle va découvrir en fait que la mère de décomposition en réalité a une fonction qu'elle ne soupçonnait pas, c'est-à-dire que quand on tombe accidentellement dans les sous-sols, on se rend compte que l'air est respirable et pur, et qu'en fait la mère de décomposition sert à purifier la pollution et tous les restes de pollution à la fois industrielle et radioactive qu'il y avait. Donc c'est quand même une sorte de forme d'épuration naturelle du monde naturel. Voilà.
Voilà. Donc c'est un peu dans ce rapport à la mer de décomposition qu'on peut voir le rapport écologique de Nausicaa à cette forêt, et la pensée et comprendre peut-être un peu la pensée écologique de Miyazaki.
Tout à fait. C'est-à-dire que après je pense qu'il n'est pas dans une critique directe de la différence entre nature et culture qu'on peut trouver dans l'anthropologie contemporaine. En revanche, il est en tout cas dans un clair refus de choisir son camp. C'est-à-dire que tout le cinéma de Miyazaki, et ça on le voit dès Nausicaa, c'est toujours je refuse non pas de prendre parti, mais de soutenir aveuglément un camp. Ça se voit avec les empires d'Oroc et Tolmek, ça se voit dans Princesse Mononoke, dont le héros Ashitaka est complètement déchiré entre le monde végétal et animal des anciens dieux de la forêt et le monde moderne et industriel de Dameboshi. Ou voilà, et dans Nausicaa, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on a justement ce refus, elle, de choisir entre ce monde de la forêt et de l'autre côté choisir le camp d'humanité, puisqu'on a un groupe humain très intéressant dans le manga Nausicaa qui s'appelle les, enfin qu'on nomme ceux.
Peut-être expliquer juste la différence où finit le manga et où finit le livre.
Oh, le film finit tout simplement sur une forme.
Le
film, c'est pas très important. Le film finit sur une. Elle a réussi à empêcher en fait la destruction de son de la vallée des vents et des troupes Tolmek qui se trouvaient là par une charge d'Omu qui sont des insectes géants justement qui ont une forme d'intelligence semi-consciente et donc elle se sacrifie et elle est ensuite en quelque sorte ressuscitée par les Omu. Elle a un nouveau Christ justement. Elle devient l'être vêtu de bleu, le Messie. Et donc la fin du film, même si elle n'est pas très détaillée. Comment dire, indique les prémices d'une forme d'humanité réconciliée qui commence à tirer les leçons de ses erreurs. Voilà, ce qui est une forme d'optimisme qui ne veut pas du tout continuer à avoir par la suite. Voilà, ça c'est la fin du film.
Justement, vous pouvez dire la différence avec le manga, justement, qui ne s'arrête pas là.
Et non, le manga, justement, elle se rend compte qu'en fait, bon voilà, elle a réussi à empêcher la destruction de sa vallée, mais la guerre entre les Dorok et les Tolmek fait rage et donc du coup, elle va se retrouver prise entre deux feux en quelque sorte. Et donc du coup, voilà, elle essaiera de. Je sais pas si on peut dire de réconcilier tout le monde, mais de trouver sa propre voie, de trouver une voie qui soit acceptable et qui permette de faire ses tueries. Voilà.
D'accord. Voilà, voilà. Alors, peut-être on va se faire une petite pause musicale avant d'entendre la suite du discours passionnant de Monsieur Le Hardy.
Des noirs, les balles pleuvent en une demi-heure pour se niquer. On est un des meilleurs peuples, je te mens pas. C'est dans les journaux, tu sais. Tu veux que les jeunes noirs votent, mais les journaux duplex. Beaucoup de gros ont trop peu de valeur. Gros et baisse, souvent leur froc pour un footballeur pro. Qu'est-ce que tu croyais qu'une billage allait t'apporter? Peur de croiser James c'est vite à l'état d'hôtel. Ça se baratine, ça sort la carabine, ça s'abîme le cerveau comme le proprio du Badabing. Le chétan arrête pas de harceler, frère. Elles veulent plus donner le sein, elles veulent se les refaire. J'essaie de m'évader en chantant. Les types me disent à rien de bandant pendant le cessez-le-feu. Comment ça s'écrit? Amnesty, ok. Tu connais du monde, mais si la vie te gifle, tu vas ramener qui? Y'en a un quart dans le jean, et trois quarts dans le jean. Steve et Boubacar tease en se regardant. Mes potes écoutent Kadhafi et Ludacris. L'amitié ne tient qu'un fil, celui d'un stream. Le monde est mon pays, ouais, le monde entier. Ouais, je suis un lyriciste, dis ça à mon banquier. Le bonheur, je t'en parle difficilement si tu es du ciment petit, tu me dis si je mens. Le monde est mon pays, même si j'ai d'un, lâche pas l'affaire. Plus donner le sein, elles veulent se les refaire. Le monde est mon pays, même si chez nous les balles pleuvent. Pour se niquer, on est un des meilleurs peuples. Le monde est mon pays, même si j'ai d'un, lâche pas l'affaire. Plus donner le sein, elles veulent se les refaire. Le monde est mon pays, car même quand on vit les pires choses, chez nous, SOS, ça veut dire on défonce mal nos thunes à cause de nos virées nocturnes, man. On regarde pas 20h, il est arme notre journal. Coup de feu oblige, jamais tort, c'est nu à la plage. Pas de mannequin pour crash test, non, c'est nous à la place. Y'a que la mort que je trouve radical. Hey, ouvre les yeux frère, c'est pas le premier mai, tu trouveras du taf. Avoue que c'est grave, pas de flou, je bédave. D'un coup, c'est d'âge, je finirai pas comme Azouz Bégal. On m'a acheté un pav, on m'a dit là t'es en retard. Si ça te dérange pas, enterre-moi dans le village des rempas. Le respect, te bé, je l'ai hérité. Tu sais, y'a qu'une lettre entre VIP et RIP. Très peu ont un mental de moins taille. Je sais que t'es mon gars, mais t'es bon qu'à être bancal. Réussir, c'est un rite, passe-moi un rythme. Que je dise à la daronne, repose-toi, passe-moi un rythme. La vie est courte, prends soin de toi. La faucheuse m'a dit toi, la prochaine fois, y'aura pas de prochaine fois. Trop d'ennemis, trop peu de cartouches. Confonds pas le grand banditisme et les petits bis de carte-mousse. Arrêtez de vouloir trouer le gilet de nac. Je me cache pas, tu sais où me trouver, Virginie Fnac. Chez nous, échouer, c'est la pire chose. On fait nos propres règles, SOS, ça veut dire sauce. Le monde est mon pays, même si j'ai d'un, lâche pas l'affaire. Plus donner le sein, elles veulent se les refaire. Le monde est mon pays, même si chez nous les balles pleuvent. Pour se niquer, on est un des meilleurs peuples. Le monde est mon pays, même si j'ai
titane, lâche pas l'affaire. Plus donner le sein, elles veulent se les refaire. Le monde est mon pays, car même quand on vit les pires choses, chez nous, SOS, ça veut dire sauce. Le monde est mon pays, Nat Mendoza. Je suis pour la paix, même si je fais des M16 mesures.
C'était Le Monde et Mon Pays du rappeur Nak Mendoza sur Radio Canu, émission Montaigne Oise Thug, avec aujourd'hui Monsieur Le Hardy qui nous parle de Miyazaki, le marxisme et l'écologie. Alors, on s'était un peu penché sur le film Nausicaa, que Monsieur Le Hardy nous a très brillamment, dont Monsieur Le Hardy nous a très brillamment résumé le début. Mais alors, on va peut-être, enfin, le début jusqu'à un certain point, et même jusqu'à la fin du film, qui n'est pas la fin du manga. On va peut-être maintenant passer à la rencontre entre Nausicaa et ceux qu'on trouve donc dans la mer de décomposition qui est en fait une forêt et oui. qu'on appelle ceux de la forêt.
Alors ça, c'est peut-être là où on va commencer à voir un petit peu la pensée écologiste ou écologique de Miyazaki. Alors ceux de la forêt, c'est un groupe humain très peu nombreux qui est très particulier, c'est-à-dire que c'est un groupe humain qui a renoncé au feu, c'est-à-dire qu'ils vivent directement, donc ils ne font pas cuire leurs aliments, ils se nourrissent essentiellement de plantes, de racines ou d'œufs d'insectes dont ils prélèvent les surplus, et exclusivement les surplus, dans la mer de décomposition. Donc en fait, ils vivent en ce qu'on pourrait dire, pour faire un peu cliché, en parfaite harmonie avec le milieu naturel, en quelque
D'accord.
sorte. Voilà. Mais en fait, c'est plus, même si on les voit assez peu vivre en quelque sorte dans le manga, je pense qu'ils ne reflètent pas forcément l'opinion de Miyazaki, mais plutôt une interrogation. C'est-à-dire que le fait qu'ils aient renoncé au feu, c'est un petit peu une métaphore du nucléaire. C'est-à-dire que pour lui, en quelque sorte, ce que met en cause Miyazaki, c'est, enfin, ce que met en cause, du moins, ce que veut analyser Miyazaki, c'est le caractère prométhéen de la technique, puisque ce qui est très particulier avec ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas, enfin, leur technique n'est pas prométhéenne, c'est-à-dire qu'elle ne vise pas à améliorer le sort de l'humanité, à le transformer, à le changer radicalement. Elle ne vise qu'à la stricte survie, à satisfaire des besoins naturels, c'est-à-dire manger, dormir, marcher, enfin voilà, des choses vraiment, les choses les plus simples. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de demeure, ils dorment dans des espèces de dômes qu'ils construisent eux-mêmes et qui disparaissent dès le lendemain. Enfin bon, voilà, donc c'est assez particulier. Surtout, donc, ils ont renoncé au feu, qui est, voilà, ben là, on retrouve justement l'histoire de Prométhée, c'est-à-dire la technique première, comme s'ils voulaient remonter en quelque sorte à la cause des causes, puisque d'une certaine manière, sa critique du nucléaire est là, elle est relativement atypique, c'est-à-dire que pour lui, en fait, le nucléaire n'est pas quelque chose de spécifique, enfin, n'est pas quelque chose de tout à fait spécifique, c'est plutôt, disons, le feu, mais poussé à l'extrême, poussé jusqu'au bout. Voilà, il n'y a absolument pas qu'il faut.
Sa réflexion, c'est un peu soit on renonce à toute technique, soit il n'y a pas de degré. On pourrait pas se limiter au feu.
Alors non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit exactement ça, sa réflexion.
C'est la question que lui permettent de poser les personnages de la forêt.
Oui, c'est plus poser une question, c'est-à-dire de voir à quoi pourrait ressembler l'humanité si elle avait pris une direction radicalement différente. C'est pas de dire il faut vivre quand même, parce que justement ce qui est intéressant, c'est que l'héroïne justement finit à un moment, désolé je vous révèle la fin, mais par aller vivre avec eux, mais elle comprend très bien que ce mode de vie ne pourra jamais être celui de l'humanité, qu'il n'a même pas vocation à devenir. C'est plus, comment dire, regard, c'est plus une forme de réflexion en miroir, c'est-à-dire voir à quoi nous pourrions ressembler à travers, en quelque sorte, le miroir magique du conte.
D'accord.
Si on avait fait ça, c'est-à-dire que lui, justement, il ne dit pas... Bon, il a des aspects ludiques, bien sûr, mais il ne dit pas « il faut que nous renoncions au feu, il faut que nous vivions tout seuls dans la nature ». Voilà. Il n'est pas là-dedans, il
Monsieur
veut
Lardy,
juste...
Monsieur Lardy, peut-être que ludite, vous pourriez expliquer pour les auditeurs ce que c'est.
Ah, ludite, pardon. Ludite, c'est des gens... Enfin, ça vient de l'Angleterre, en fait. C'était des gens qui, de la première phase du 19e siècle, casser les machines, justement, les outils de travail, en disant qu'en fait, comme ils étaient aliénés par la machine, ils voulaient la briser, puisque à leurs yeux, la machine était la source de leur aliénation. plus encore par exemple que le système capitaliste ou le patronat lui-même. Ça, disons la machine pour eux était le problème direct.
Ce qui est aussi différent du système de la pensée marxiste.
Ah complètement, Marx a violemment critiqué, enfin violemment, peut-être pas quand même exagéré, mais je veux dire en tout cas justement il a critiqué le ludisme en disant que voilà, ils étaient sympathiques mais ils se trompaient complètement de cible. Et Miyazaki lui aurait peut-être un petit peu l'idée inverse, j'allais dire, d'une certaine manière, c'est-à-dire que voilà, il a cette réflexion assez double sur l'écologie. Donc en fait simplement ceux de la forêt, c'est encore une fois, c'est plus tendre un miroir et montrer à quoi nous pourrions ressembler, mais pas à quoi nous devons ressembler. Et ça, c'est, je pense que cette nuance est très très importante dans sa pensée, puisque encore une fois, même s'il a une forme peut-être de penchant lui-même pour l'écologie radicale, il ne trouve pas du tout que ça soit souhaitable de vivre comme ça ou qu'il faudrait imposer.
Mais est-ce qu'il ne pense pas que ce soit souhaitable ou est-ce qu'il ne pense pas que ce soit possible ?
Les deux, je pense. Vraiment les deux, à mon avis. Voilà.
D'accord. Et donc, alors, le moment de questionnement, de dilemme écologique, c'est cette rencontre, cette arrivée dans le cimetière
de Showa.
Voilà.
Alors, Showa, c'est la ville capitale des Dorox. Donc, c'est la toute fin du manga où, en fait, Nausicaa, justement, a fait un certain nombre de rencontres préalables sur lesquelles nous n'aurons pas vraiment le temps de revenir, mais qui sont très importantes, où elle a pris conscience, finalement, d'abord que son statut de messie était extrêmement, extrêmement précaire, d'une certaine manière, et surtout, elle a pris également conscience, parce qu'elle a des, pour se représenter parfois de manière concrète, parfois de manière métaphorique, de l'importance du néant. Donc ça, c'est très japonais, puisque le néant, c'est une thématique très très importante avant dans le bouddhisme. Enfin, c'est plutôt le vide que le néant, mais là, il a volontairement joué sur les deux, ce qu'on appelle mu, en japonais. Et d'ailleurs, elle a des conversations métaphoriques en quelque sorte, où elle a des rêves où elle parle au néant. Qui lui montre en quelque sorte que l'humanité est prise dans une forme de structure cyclique et qu'elle ne pourra jamais justement briser, comme on parle, vous savez, d'une route des réincarnations dans le bouddhisme, elle ne pourra jamais briser cette espèce de cycle de violence qui est infini et qu'en fait elle-même marche sur des cadavres et qu'elle-même a été obligée elle aussi de tuer et de se battre en quelque sorte et donc qu'elle est partie prenante de ce cycle de violence et que disons qu'elle n'a aucune pureté elle-même et donc qui est-elle pour juger l'humanité. Donc à la fin, elle va se retrouver donc dans la capitale d'Orok et rencontrer un être artificiel qui s'appelle le maître du cimetière qui en fait a été créé par des savants utopistes avant la destruction de l'ancien monde, donc par l'apocalypse atomique, et qui en fait lui révèle que la mère de décomposition, en réalité, est une création humaine elle aussi, puisqu'elle a été créée par une sorte de bio-ingénierie pour réparer le monde et créer un environnement non pollué, puisque quand le centre de la mère de décomposition, qui est précisément un endroit où il n'y a pas cette forêt toxique, est totalement purifié, sauf qu'il est tellement purifié qu'il n'est plus respirable par les humains de cette époque-là, parce qu'en fait, je ne parle pas des spores toxiques de la forêt là qui sont toxiques de toute façon, mais simplement le corps des humains a lui aussi a été modifié artificiellement, mais a tout simplement évolué lui-même avec le temps. Et s'il respirait l'air pur entre guillemets, même si l'air actuel n'est pas très pur, enfin que nous respirons actuellement, ils mourraient, ils cracheraient leurs poumons et ils voilà, ce serait fini d'eux. Et donc en fait, le maître du cimetière lui explique que tout ce monde végétal va peu à peu disparaître pour une fois que la mère décomposition aura achevé son œuvre et que l'humanité devra aussi d'une certaine façon disparaître et sera remplacée par des êtres qui dorment à l'intérieur du ventre de la créature, qui sont en fait des humains améliorés, c'est-à-dire qui n'ont absolument pas les pulsions violentes qu'ont les humains tels que nous sommes par exemple. Et là on voit justement toute une critique de ce qu'il y avait encore d'utopie dans le marxisme, c'est-à-dire toute cette espèce de rhétorique de l'humanité nouvelle qui doit prendre la place de la précédente, la création d'une humanité réconciliée qui a quand même été un ferment des totalitarismes.
Oui, bien sûr. Hardy, là, oui. C'est dans le marxisme, c'est une humanité nouvelle qui doit naître. C'est une vraie humanité. Là, il ne doit pas y avoir une humanité qui doit naître.
Mais là, je parle
de l'humanité. Là.
Bien sûr. Non, mais il y a une humanité nouvelle qui naîtra. Mais là, je parle plutôt du marxisme. Enfin, c'est même pas vraiment du marxisme pour parler, mais disons, je parle plutôt du totalitarisme au sens qu'on a vu chez Mao ou Staline, avec l'idée de créer un nouveau peuple, par exemple, qui n'est pas dans le marxisme.
Ce que j'avais pas compris, c'est que après que tous les humains meurent parce qu'ils ne pourraient pas respirer, donc c'est pas nouveau, il y aura
une autre humanité nouvelle qui naîtra.
Mais une humanité en fait déshumanisée.
Exactement, et c'est ça qu'elle trouve absolument horrible, puisqu'elle a fini par comprendre que ce que Georges Bataille appelle le mal, ce que d'autres écrivains comme Annie Lebrun appellent le négatif, est consubstantiel à l'humanité et que du coup, en les privant de ça, c'est la pire des mutilations et que ça crée des êtres justement qui seront complètement dénués de passion voilà, qui seront sans doute très très attirants. Mais justement, ce qui serait paradoxal, c'est que même si elle est horrifiée par ça, parce que pour elle, l'humanité, c'est aussi l'idée de quelque chose qui continue de changer, d'évoluer, et qu'en fait, cette humanité sera tellement parfaite qu'elle n'aura pas plus besoin, en quelque sorte, d'évolution. Même si elle est horrifiée par ça, elle voit à quel point ce rêve est désirable et à quel point ce rêve la tente, elle aussi, parce qu'elle a vu une telle violence, une telle horreur, que de se dire que ces êtres qui vont naître seront excellents. Voilà, ça la met devant un dilemme absolument terrible, et qui est un peu le dilemme de Miyazaki, c'est-à-dire soit accepter cette part de néant, soit au contraire rêver d'un monde utopique, se battre pour lui, etc. Et c'est une contradiction qu'il va essayer de résoudre avec plus ou moins de succès dans ses œuvres ultérieures. Voilà.
Mais alors, est-ce que, si j'ai bien compris,
oui,
est-ce que Miyazaki adhère à cette pensée anthropologique de l'homme comme ayant en lui une part de mal, donc c'est un...
Oui, clairement.
Il adhère donc à cette
clairement. Ah, je ne dirais pas mal parce que c'est pas judéo-chrétien, mais oui, parce qu'il vient d'une culture qui n'est pas judéo-chrétienne, mais oui, clairement.
Et
très clairement.
Ça veut dire que du coup, l'homme, en tant qu'il est un peu mauvais, il ne peut pas cohabiter avec la nature.
Il ne dit pas que l'homme est mauvais. Il dit que l'homme, étant donné, je pense, qu'il est un être d'opulsion, est fondamentalement contradictoire. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, à une part, et justement, c'est ça. Il fait très attention quand il présente des personnages à ne jamais présenter comme, enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est très rare, comme fondamentalement mauvais. Ce sont toujours des personnages qui, dans des situations, peuvent être sympathiques, mais dans d'autres, non, justement. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il montre que il n'y a pas une forme de logique générale du comportement. Il y a disons des phases, c'est-à-dire qu'un homme en société pourra être une personne absolument charmante et même aider son prochain, mais face à d'autres circonstances, il pourra tout autant se montrer extrêmement mauvais ou voilà. Donc
c'est une sorte d'anthropologie qui définit l'homme par une sorte d'indéfinition d'un homme,
oui, d'un certificat de
contradiction contradictoire.
Exactement, oui, voilà. Oui, exactement. Il n'utilise pas le langage psychanalytique, que je ne sais pas dans quelle mesure il le connaît, mais oui, il y a clairement, c'est freudien quand même, d'une certaine manière, dans le pessimisme en tout cas. Bon, voilà.
Mais en tout cas, si on s'arrête à cet épisode du cimetière, oui, on voit une vision assez pessimiste de Miyazaki concernant.
Pessimiste, je ne sais. Là, pour le coup, je ne sais pas, parce qu'en fait, oui, pessimiste sur la capacité de l'humanité à s'autopurger, oui, mais en même temps, le choix de Nausicaa.
Cohabiter avec la nature.
Oui, mais le choix de Nausicaa, c'est justement aussi de faire confiance en l'humanité, c'est de dire, même si nous sommes contradictoires, on ne sait pas ce que ça fera, mais il faut aussi croire à notre possibilité d'évolution et à se dire que même si nous ne deviendrons jamais comme ces êtres, nous pouvons quand même changer, nous pouvons d'une certaine manière évoluer, nous ne sommes pas immobiles, alors que ces êtres qui pourraient naître seraient immobiles puisqu'ils seraient déjà parfaits en quelque sorte. Et donc elle choisit justement de faire confiance à l'homme et de voir comment il évoluera quand la mère de décomposition aura achevé son travail de purification. Est-ce qu'il aura évolué tout seul? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Enfin, c'est plus une fin d'incertitude qu'une fin, disons, pessimiste par rapport à Nausicaa, je pense clairement. Voilà.
D'accord. Peut-être que monsieur Bertrand Fibien a envie de réagir. Je le vois s'agiter.
Ouais. Non, juste sur ce. Oui, elle fait vraiment confiance à l'évolution. Et donc, elle-même, elle est fille. Sa mère a eu 11 enfants.
C'est ça.
Elle, mais ils sont tous morts, sauf elle.
C'est ça. En absorbant du poison, à force.
La mère de Nausicaa, donc.
Oui, la mère de Nausicaa.
C'est ça.
Voilà. Et en fait, ils font. Elle dit aussi, par rapport au sport, donc ils se baladent un peu partout, elle dit, pour une sport qui arrive dans ce monde...
Oui. C'est pas les sports toxiques, vous voulez dire?
Oui,
que
oui pas le sport.
Non,
les sports. Les de la mer.
Voilà.
Oui.
Pour une sport qui est arrivée à cet endroit, il y en a des millions qui sont mortes, et donc elle dit, peut-être que nous, pour arriver à cet endroit purifié, on devrait arriver là-bas, d'où cracher du sang et mourir. Mourir. Peut-être qu'il faut peut-être mourir en masse pour qu'un être humain, finalement, arrive à...
Oui.
À habiter dans ce monde pur, et donc oui, donc il y a bien cette foi en l'évolution.
Oui,
mais il y a quand même l'idée que tout le monde doit mourir avant. En fait.
Ouais, mais du coup, il y a quand même un rapprochement de l'être humain avec la nature, avec ses sports. Donc, que comme les sports se sont répandus en mourant, l'être humain aussi, en tant qu'être naturel, animal, doit aussi passer par ce sacrifice de l'évolution.
Oui, après, je ne sais pas si la notion de sacrifice est présente, mais je pense que ça, quand même, ce dont tu parles, est quand même fondamentalement différent de la perspective du maître du cimetière, qui, lui, veut une sorte de... En fait, c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'elle critique avec le maître du cimetière, c'est le fait que le désastre technique, au lieu d'amener une prise de conscience, comme par exemple celle de ceux de la forêt, amène au contraire à désirer encore plus de techniques, c'est-à-dire à vouloir une maîtrise qui s'étend jusqu'au moindre élément du processus naturel. Or, en fait, ce processus naturel, il finit toujours par échapper au contrôle, puisque, par exemple, les omous, dont je parlais tout à l'heure, qui sont ces animaux un peu étranges, bon, ils ont été créés par la mère décomposition, mais en même temps, leur intelligence, les facultés qu'ils ont développées, sont des facultés propres qu'ils ont développées en évoluant eux-mêmes, en quelque sorte. Donc, en fait, il y a quand même cette capacité et cette croyance en la, oui, en la forme évolutive de la vie, tout simplement, que figerait, disons, une idée utopique. C'est-à-dire que là, ils critiquent l'utopie aussi, au sens où l'utopie veut amener des solutions définitives aux choses, en quelque sorte. Et ça, c'est, pour lui, c'est quelque chose qui est une chimère qui n'est pas possible. Voilà.
D'accord. Donc alors, on comprend bien où en est la pensée peut-être écologique de Miyazaki au moment de Nausicaa. Mais est-ce que cette pensée écologique est amenée à évoluer? Donc, parce que ça, Nausicaa, c'est les années 80, la fin des années 80, fin des années 90 pour la fin du manga, si je me souviens bien, moitié des
94 pour la fin du manga.
Mais donc, est-ce qu'aujourd'hui, Miyazaki penserait à la même chose?
Je ne sais pas. C'est vraiment compliqué à dire. Il a fait une interview il y a quelques temps où justement il réaffirmait son attachement à la pensée de Marx, même s'il était assez pessimiste quant à ses réalisations, malheureusement, enfin quant à ses possibilités de réalisation. Mais je pense que fondamentalement, ce basculement n'a pas totalement évolué. Simplement, maintenant, il explore davantage. Bon, il a conclu qu'il fallait, voilà, comme dit son dernier film, tenter de vivre en quelque sorte, malgré tout, malgré cela. Mais justement, voilà, son cinéma a bien davantage exploré, après Nausicaa, qu'est-ce que ça veut dire tenter de vivre et comment peut-on tenter de vivre. C'est-à-dire que la prise de conscience du rapport entre l'homme et la nature, je pense qu'elle n'a pas fondamentalement évolué après. D'ailleurs, vous voyez, et ça c'est assez marrant, c'est-à-dire qu'en dehors de films comme Ponyo qui parle un peu des catastrophes, son cinéma des années 2000 s'est recentré sur l'humain en quelque sorte. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple des films comme Le Voyage de Chihiro, après Princesse Mononoké, qui est disons une forme de complément à Nausicaa, je dirais. Peut-être
donc,
un peu plus optimiste.
C'est ça, on avait donc eu un débat avec Monsieur Fibien et vous en off. Monsieur Fibien faisait remarquer que peut-être Princesse Mononoké était plus simpliste que le manga Nausicaa. Donc est-ce que ça consistait une évolution de sa pensée? C'était difficile de le dire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je ne le trouve pas plus simpliste. Personnellement, c'est un film que j'aime beaucoup et que je trouve simplement, pas plus simpliste, mais simplement peut-être moins riche parce que, bon, voilà, le manga, il s'étend en 7 tomes. Il y a le temps de beaucoup discuter. Bon, c'est un film de 2 heures, ce qui est déjà assez long. Et bon, voilà, il n'a pas le temps de tout aborder. Donc, je pense que c'est pour ça. Mais après, oui, peut-être que justement, dans Mononoké, il affirme avec un peu plus d'énergie la volonté de vivre, alors que dans Nausicaa, la fin témoigne surtout à la fois d'un espoir, mais aussi d'une sorte de fragilité fondamentale et de l'héroïne et du monde dans lequel elle vit. Voilà. Alors que dans Mononoké, et puis bon, Mononoké, il y a aussi quand même, c'est un film historique entre guillemets, qui est assez ironique, puisqu'à la fin, justement, les gens des forges se disent qu'ils vont en quelque sorte essayer de vivre un petit peu avec leur milieu et d'accepter cela. Et en réalité, le chemin qu'a pris la société japonaise et même toutes les sociétés occidentales, justement, là, ça se passe à peu près au 16e siècle, il me semble, c'est le chemin exactement inverse, en fait. Donc, je pense qu'il y a aussi une forme de tragique et d'ironie là-dedans. Ouais. Voilà. Donc, peut-être que c'est pour ça que ça peut paraître un peu plus simpliste que Nausicaa. Enfin, Nausicaa, c'est un petit peu comme enlever le scaphandre du cosmonaute marxiste et de commencer à voir si on peut respirer un peu autrement. Mais au début, quand on commence à respirer, on suffoque un peu. Voilà. Et je pense que cette suffocation est assez présente dans la fin de Nausicaa, qui est, voilà, dans laquelle on sent une sorte de d'affirmation, mais de fragilité de conviction en même temps, ce qui fait que c'est une fin assez intéressante. Voilà.
Et donc, est-ce qu'on peut parler, donc, on peut pas parler de reniement du marxisme, puisque vous le dites encore aujourd'hui dans ces interviews?
De rejet du marxisme, clairement, pas de la pensée de Marx. Enfin, je fais une différence entre les deux, voilà. Parce que du rejet du marxisme au sens d'idéologie messianique, oui, ça c'est sûr. D'accord. Voilà. De la pensée de Marx, non, parce qu'on considère que c'est un outil. Après, il y a aussi une vision, quant à la lecture socio-économique, je pense qu'il la rejette pas dans sa totalité, mais comme il dit à un moment, il dit qu'il en avait quand même assez de... Mais ça, c'est plus la question de la conscience de classe. Je ne sais pas si c'est dans Marx directement, mais c'est l'idée, et ça, il le critique pas mal, qu'en fait, il faudrait considérer, enfin, d'une manière un peu essentialiste, que parce que quelqu'un viendrait de la bonne classe sociale, mettons du prolétariat, il aurait une sorte de... Je ne sais pas si c'est de moralité supérieure, mais en tout cas de rôle historique ou économique supérieur à des gens qui n'auraient pas cette classe. Ça, il le rejette totalement parce qu'il considère justement que de toute façon, dans toutes les classes sociales, il y a cette contradiction fondamentale.
Je ne sais pas si c'est directement chez Marx.
Non, mais justement, c'est pour ça que je dis le marxisme et non pas la pensée de Marx. Parce que pour moi, le distinguo est très très important de ce point de vue-là. Parce que voilà, on a quand même le marxisme, quand même aussi une façon très simplifiée de la pensée de Marx, comme le disait Maximilien Rubel, et qui a transformé un peu ça en idéologie afin de mener des luttes politiques. Et bon, voilà, comme souvent, ça peut donner des effets un peu délétères qu'on a pu voir au XXe siècle. Voilà, je n'en dis pas plus.
Donc, oui. Alors, est-ce que vous voulez passer à Porco Rosso tout de suite ou écouter d'abord la musique et après
Ah, je pense qu'il vaudrait mieux d'abord écouter la musique pour se mettre dans l'ambiance.
Alors, on est parti. La musique intitulée Le Temps des Cerises.
Oui, de Jean-Baptiste Clément, qui est un célèbre communard. C'est une chanson de la commune.
On est parti.
Pas qui date d'avant, mais bon.
On est parti, on est parti.
Nous chanterons le temps des cerises et rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil. Nous chanterons le temps des cerises, chifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va doux, cueillant, rêvant, dépendant de. Tombons sur la faille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'en cailloux rêvons. Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une pelée ouverte.
Venez d'écouter Porco Rosso, le temps des cerises, extrait de la bande originale du film français, de l'adaptation française du film Porco Rosso de Hayao Miyazaki. Donc, vous écoutez Mountain Was the Tug, toujours, avec une émission aujourd'hui sur Hayao Miyazaki, sa pensée, son marxisme. Et ou pas, non, ou pas, sans
ou plus.
Et sa pensée écologique. Alors peut-être que monsieur Le Hardy, qui est notre invité et qui aujourd'hui nous explique toutes ces belles choses, veut préciser d'où vient cette chanson, Le Temps des Cerises.
Oh, bon, non, je sais pas grand chose à dire dessus. Ça a été fait par Jean-Baptiste Clément, donc qui est un communard. Je crois qu'elle a été composée avant la commune, ça, je pense que c'est certain. Mais en tout cas, elle est restée dans l'imaginaire politique, en tout cas, liée à la commune de Paris, voilà. Et je précise qu'en fait, enfin, tu sais que c'est la version française, mais en fait, elle est chantée donc. Enfin, dans la version japonaise, c'est pareil, elle est chantée donc par.
Elle aussi chantée en français.
Elle chantée en français, bien D'accord. sûr, et c'est pas pour rien, par Tokiko Kato, Kato Tokiko, qui est une célèbre cantatrice japonaise qui a notamment fait un certain nombre de chansons politiques, dont une assez connue qui s'appelle Les Vagabonds du nucléaire, qui parle de ces gens qui travaillent dans les usines, enfin les centrales nucléaires japonaises, et qui sont exploités justement sans beaucoup de protection, qui vont d'une centrale à l'autre, etc., qui sont une sorte de prolétariat. De précaria même, voilà, du nucléaire.
Et bon. Alors, pourquoi le choix d'une chanson si politique dans Porco Rosso?
Eh bien, parce que justement, Porco Rosso, qui est antérieur à la fin de Nausicaa, signifie déjà en quelque sorte cet adieu marxiste. Alors, c'est un adieu qui, à la fois, bien sûr, est d'ordre symbolique, au sens où le monde des deux blocs s'est effondré, et donc, du coup, bien sûr, Miyazaki n'avait pas beaucoup d'affection pour l'URSS, et ça, je pense que je l'ai suffisamment montré. Simplement, cette chute de l'URSS, qui était quand même une chute d'ordre géopolitique, s'est accompagnée de toutes sortes de matraquages idéologiques et médiatiques sur la fin du marxisme, la fin de la lutte des classes, le triomphe du capitalisme, le marché qui a montré sa toute-puissance, enfin bon, et autres sottises de ce genre. Voilà, donc bon, enfin, quand on s'intéresse un peu à la presse de l'époque, c'est vrai qu'on est halluciné par le caractère quasi propagandiste, au lieu de par exemple d'analyser les raisons géopolitiques qui ont amené à cette fin, on est dans une espèce de philosophie de bazar sous Bernard-Henri Lévienne qui vous explique que de toute façon maintenant il n'y a plus que le libéralisme, there is no alternative, etc. Bon. Donc voilà, donc je pense que c'est quand même pour des gens qui ont cru, sans beaucoup de naïveté d'ailleurs, enfin pas forcément cru, mais disons qui ont grandi dans ce monde et qui se retrouvent dans une espèce de monde qui à ce moment-là est devenu unipolaire, ce qui est beaucoup moins vrai du monde d'aujourd'hui. Là je parle vraiment du monde des années 90 avec cette courte hégémonie absolue des États-Unis pendant une décennie. Sont touchés et se disent que finalement, quoi qu'on en dise, le socialisme a échoué. Et en un sens, c'est vrai, c'est-à-dire que le socialisme qui s'est pratiqué en Union soviétique a été absolument terrible et a amené à des catastrophes, et y compris des catastrophes écologiques justement, hein, qu'à voir la mer d'Aral par exemple, pour voir que bon, il n'avait rien à envier au capitalisme en termes de destruction de la nature. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que Miyazaki, il ne veut pas, enfin. Il n'est plus donc du marxisme, mais il ne veut pas non plus se rallier au nouveau système néolibéral. C'est là où sa posture est intéressante, c'est-à-dire que sa posture est d'autant plus intéressante qu'elle est rare. C'est-à-dire que souvent, soit on a eu beaucoup des gens qui ont refusé de changer et sont restés campés dans une espèce de marxisme, un petit peu de dinosaure en quelque sorte, en refusant absolument de tirer les conséquences de ce qui s'est passé en Union soviétique et qui sont restés attachés à une sorte de d'imaginaire marxisant, marxiste-léniniste, etc. Je pense à des gens comme Alain Badiou par exemple, qui disent des choses sur le maoïsme qui sont inacceptables, enfin qui essayent de le réhabiliter d'une plus ou moins, alors que enfin quand on sait l'horreur que ça a été, c'est quand même terrible. Mais ou alors, au contraire, des intellectuels qui, parce qu'ils ont fait cette critique du marxisme, sont passés carrément de l'autre côté et critiquent toute forme de révolte et disent que toute personne qui se révolte, en oubliant qu'ils se sont révoltés eux-mêmes à une certaine époque, sont des ferments du totalitarisme et que la seule solution, c'est le capitalisme, c'est le marché, etc. Voilà, mais ça, c'est le... Voilà, c'est justement cette espèce de double impasse, en quelque sorte, qu'évoque Miyazaki, et il l'évoque d'ailleurs dans un dialogue avec un autre cinéaste qui est un ancien gauchiste aussi, qui s'appelle Oshi Mamoru Oshi, qui a fait le film Ghost in the Shell, qui est un film assez important aussi, et qui justement dit en quelque sorte que le capitalisme a gagné. Et Miyazaki lui répond non, c'est pas le capitalisme qui a gagné, c'est le socialisme qui a perdu, ce qui n'est pas la même chose. Il dit c'est pas parce que le capitalisme a gagné que ça veut dire que c'est le meilleur des systèmes. C'est juste que l'autre système alternatif était un mauvais système. Et cette nuance, justement, elle est très intéressante et c'est un discours qui est très rare dans les années 90.
Et donc, cette espèce de troisième voie, enfin de cette
voie. Je refuse de choisir son camp, comme souvent chez Miyazaki.
Et elle se voit où, de comment dans le film?
Eh bien, dans le film, elle se voit de plusieurs manières. C'est-à-dire que dans le film, Porco Rosso est quelqu'un qui a été traumatisé par la Première Guerre mondiale et du coup, il s'est transformé en cochon. Donc, c'est une sorte de métamorphose symbolique. C'est-à-dire que comme il a été dégoûté parce qu'il a vu l'humanité, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, son visage est celui d'un cochon. Et d'ailleurs, il a un visage de cochon. Et donc, il dit qu'on lui a jeté un sort. Donc, on ne saura jamais qui lui a jeté ce sort, pourquoi il a ce visage de cochon, comment ça s'est fait. Enfin, bon, voilà, pourquoi est-ce qu'il s'est réveillé avec comment est-il devenu cochon? Mais ça, c'est aussi une métaphore de Miyazaki lui-même qui dit que, en fin de compte, on est un jeune idéaliste et qu'on finit par se réveiller cochon un jour ou l'autre. Et voilà, et ça, c'est une forme de critique et de pessimisme. Mmh. Et donc, ça se voit peut-être dans la montée du fascisme, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce film se situe dans l'Italie des années 20, donc au moment de la prise de pouvoir de Mussolini. Et justement, Porco Rosso va refuser, même s'il ne pourra jamais revenir à ses rêves de jeunesse, qui ne sont pas précisés d'ailleurs, il va refuser de se rallier au fascisme. Il y a une scène assez belle qui se passe dans un cinéma où il discute avec un autre officier qui lui dit mais qu'il est en danger parce qu'il est connu comme un sympathisant. Je pense qu'il s'appelle pas le port rouge. Ouais. Pour rien. Après, c'est le port rouge, ça fait référence à quoi? Son avion qui est rouge. Je sais pas s'il faut y voir plus que ça, mais je pense qu'il s'est aussi un peu amusé avec cette symbolique. Et en tout cas, dans cette scène au cinéma, justement, elle dit, mais de toute façon, je préfère toujours être un Porcini qu'un fasciste. C'est-à-dire que mieux vaut peut-être à la rigueur une forme de nihilisme que une espèce de forme de ralliement à une idéologie, parce qu'en réalité, quand on voit la façon dont certains ont troqué un amour du socialisme pour un amour du capitalisme, je ne dirais pas, bon, c'est quand même moins totalitaire dans le second cas, mais il n'empêche, c'est toujours une espèce de croyance froide en idéologie, en disant qu'il n'y a que cette solution qui est possible, et il martèle avec autant de certitude que le marché est la seule solution, comme on martelait avec autant de certitude que le socialisme et le marxisme-léninisme étaient la seule solution juste et scientifique, grâce aux camarades Staline et Lénine. Enfin voilà, on peut voir aussi un parallèle entre ces deux espèces, disons, de certitude. Voilà, ça se voit là-dedans. Puis après, il y a tout un tas d'hommages, notamment à un imaginaire. Et dans une interview, il parle justement du fait qu'il y a le temps des cerises dans ce film, en disant, mais parce que pour moi, c'est d'autant plus douloureux. Parce qu'à mon avis, c'est l'échec de la commune qui a fait naître le bolchevisme. C'est l'échec de cette espèce d'expérience libertaire. Et là, on retrouve un petit peu d'un socialisme qui peut-être n'était pas utopique en un sens, parce que précisément, il se préoccupait de problèmes concrets. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait comme la sociale, etc. Voilà. Qui a échoué, et du coup, qui a amené à créer une espèce de système beaucoup plus militarisé, beaucoup plus hiérarchisé, beaucoup plus violent qu'on a vu à l'œuvre dans la révolution bolchevique. Voilà. Donc je pense que c'est en ce sens-là qu'on peut voir un adieu et un hommage au marxisme en même temps. Enfin, c'est assez ambigu. Puis il y a aussi quand même une certaine forme de moquerie pour un personnage dans ce film qui s'appelle Donald Curtis, qui est l'aviateur rival de Porco Rosso et qui est en fait une parodie du jeune Ronald Reagan. C'est-à-dire, c'est un pilote d'hydravion qui vient d'une bonne famille, qui veut devenir acteur à Hollywood et qui rêve d'être président des États-Unis. Enfin bon, voilà. Et ça, il s'en moque d'une manière très très claire. Voilà, de cette espèce d'imaginaire un peu ridicule d'un imaginaire de carton-pâte. Voilà.
Donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est le refus de se rendre.
Hein, c'est ça.
Chez Miyazaki, et qui est exprimé par ce film de Porco Rosso.
Oui, le refus de se rendre, mais aussi, c'est pas parce qu'on se rend qu'on ne disparaît pas. C'est-à-dire que Porco Rosso, à sa manière, enfin, bon, pas vraiment raconter la fin du film, mais finit par disparaître à sa manière. C'est-à-dire qu'il ne se rendra jamais, mais à cause de cette espèce de fragilité qu'on retrouve un petit peu dans la fin de Nausicaa, il ne pourra jamais, et ça c'est quand même une constante des personnages de Miyazaki qui ne sont des héros adultes de Miyazaki, puisque Nausicaa est une enfant au début mais devient une adulte à la fin. C'est-à-dire que les héros enfants, c'est ça, ça s'associe à une autre chose intéressante, trouveront toujours leur voie, alors que les héros adultes trouveront toujours des solutions beaucoup plus précaires et n'arriveront jamais jusqu'au bout de ce qu'ils recherchaient. C'est-à-dire que par exemple Chihiro, qui est une enfant, à la fin du voyage de Chihiro, se trouve elle-même, arrive à trouver ce qu'elle est, alors que Jiro, le héros du Vent se lève, son dernier film, qui est un adulte, n'y arrive pas vraiment. Porco Rosso non plus. Nausicaa fait une solution de fragilité. Ashitaka aussi. Enfin bon, voilà, c'est ça, je pense qu'il y a une dichotomie entre enfant et adulte très très claire dans les finalités dans son cinéma. Oui.
Et donc, est-ce qu'avec Porco Rosso, on signe un peu la fin de la réflexion, ou en tout cas la réflexion poussée sur l'écologie au sein des films
Non, pas du tout, parce que Porco Rosso, c'est une parenthèse, parce qu'il n'y a absolument aucune référence à l'écologie. Là, c'est vraiment purement humain. C'est plutôt l'idée politique à laquelle qu'il met un petit peu hors du champ de son cinéma et qui ne va revenir d'une manière plus directe qu'avec Le Vent se lève, qui est son dernier film.
Et donc, voilà. Alors, peut-être que vous pouvez nous parler de ce retour du...
De son retour, vous voulez parler de Chihiro ou pas? Non.
Le retour du politique.
Oui, le retour du politique dans Le Vent se lève. Ben, en fait, le retour du politique, je pense qu'il est un peu imposé par les circonstances. C'est-à-dire que.
Déjà, je comprends pas pourquoi on parle de retour du politique, alors qu'on a dit que quand même dans Porco Rosso, c'était un hommage au marxisme, mais surtout.
Bien sûr.
Le politique n'a pas disparu.
Non, je parlais de films comme par exemple Ponyo sur la falaise, qui sont pas vraiment des films politiques. Ou même à la rigueur de Chihiro, qui, même s'il critique effectivement un petit peu la structure du monde de l'entreprise japonais, donc il y a une réflexion politique, évoque moins ce que je qualifierais de grandes questions, en quelque sorte.
D'accord.
Voilà, c'était dans ce sens-là que j'évoquais...
Je sais qu'il y a quand même une petite différence de degré entre Chihiro et Porco Rosso.
Il n'y a pas du tout la même finalité. Puis la place du merveilleux dans Chihiro est complètement différente. Et ça, Chihiro, faudrait faire... Enfin, n'en parlerons pas beaucoup, même n'en parlons pas aujourd'hui, mais faudrait faire une émission entière sur Chihiro. C'est un film d'une extraordinaire complexité.
D'accord, mais alors là, voilà. Pour l'instant, on va parler de ce retour...
De ce retour du politique dans Le Vent se lève. Alors, Le Vent se lève, en fait, je pense qu'il faut faire une petite contextualisation, c'est-à-dire qu'il y a depuis quelques années au Japon, enfin ça fait un certain temps, une espèce de retour du nationalisme, notamment dans le discours politique, et notamment de la part de dirigeants politiques et de l'équipe actuelle, avec le Premier ministre qui s'appelle Shinzo Abe, qui est un dur qui associe une politique économique très libérale à un discours extrêmement militariste et nationaliste. Voilà, donc il y a une forme de réhabilitation. Il voulait changer la constitution récemment, la constitution pacifiste, de la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les Japonais aient leurs propres forces de défense par rapport à la Chine, etc. Bon. Voilà. Donc je pense que ça s'inscrit dans ce contexte. Et la question de Miyazaki, c'était justement de regarder un petit peu en face le passé japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, qui, s'il est étudié par des universitaires japonais, est quand même, j'ai l'impression, je sais pas si on peut dire tabou, parce que je ne connais pas assez la société japonaise pour pouvoir porter un jugement définitif, mais en tout cas, est quelque chose qu'on évoque avec beaucoup moins de facilité qu'en France, par exemple, par rapport à nous, à l'occupation, ou à d'autres choses, où on parle beaucoup plus librement. Et donc, du coup, ce film, ça raconte l'histoire. Une histoire d'une biographie fictive de Horikoshi Jiro, qui était le constructeur de ce fameux Zéro. Donc on retrouve aussi la réflexion familiale de Miyazaki avec son père qui le construisait, en juxtaposant avec un roman de Tatsuo Hori qui s'appelle Le vent se lève, justement en référence à toujours à Paul Valéry, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui est amoureux d'une jeune fille tuberculeuse. Donc voilà, ça raconte ce déchirement. Et le personnage de Jiro est assez intéressant parce que justement c'est quelqu'un qui va contribuer à la machine de guerre japonaise, qui au départ est juste un génie passionné par l'aviation, et qui en fait, là on retrouve toujours le caractère dual de la technique, c'est-à-dire que dans son rêve il voit un constructeur d'avion qui lui dit mais les avions ne sont faits ni pour la guerre ni pour les affaires, ils sont faits pour les rêves. Sauf qu'en fait ceux qui lui permettront de faire ces avions, ce ne sont pas justement ceux qui sont du côté du rêve. Bien au contraire, ce seront ceux qui sont du côté de la guerre. Voilà. Et donc c'est cette espèce de rêve qui est transformé en cauchemar, et ça on retrouve ça très souvent chez Miyazaki, le rêve qui tourne en cauchemar très très vite. D'ailleurs c'est une des toutes premières images du Vent se lève, où on voit l'enfant Jiro qui monte dans un petit avion, et son avion finira par chuter parce qu'il rencontre des espèces de bombardiers gigantesques qui crachent des choses noires et visqueuses. Enfin bon, voilà, donc cette espèce la métaphore est assez claire. Voilà, comme si le rêve était constamment rattrapé par une forme de réalité technique qui est très très négative. Voilà. Voilà, voilà. Donc le vent se lève, justement, ça s'interroge aussi sur sur comment quelqu'un qui justement est pris par son génie et finit par tout accepter. C'est-à-dire que le personnage de Jiro n'est pas nationaliste. Le vrai Jiro, je n'en sais rien, mais en tout cas le Jiro de Miyazaki n'est pas nationaliste. C'est que c'est quelqu'un simplement qui est faible, au sens où il ne veut jamais. Il est tellement pris par sa création.
Son envie de voler, de créer d'un.
C'est ça, qu'il ne s'interroge jamais sur les finalités, sur la finalité et les conséquences de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il y a.
La récupération de ce qu'il fait.
Oui, c'est ça. C'est ça, mais même une récupération assumée, puisque c'est l'armée qui va lui permettre de créer ses prototypes. Tout ce qu'il veut, c'est créer quelque chose de beau. Et c'est assez marrant, parce qu'il y a une conversation avec un autre personnage du film qui essaie de lui parler un peu politique et qui lui dit mais. Voilà, enfin, rends-toi compte que si on peut construire ces avions-là, c'est parce qu'une partie de la population japonaise est mal nourrie, et que tout le budget d'État va dans la partie militaire. Et Jiro, pendant un bref instant, est-ce qu'il s'amouve en tête, et puis tout d'un coup, il enchaîne avec une question familiale. Oui, et comment va, je sais plus, ta sœur ou ton épouse, enfin bon. Voilà, donc en fait, comme si à chaque fois qu'on lui donnait la possibilité de réfléchir et de s'attaquer, il ne voulait pas voir. Et il s'enfermait, et d'ailleurs ça cause enfin c'est pas ça qui cause le c'est son épouse, mais je veux dire il aura un petit peu la même attitude avec son épouse tuberculeuse qui dissimule sa maladie, et il finit par l'oublier, par aller jusqu'au bout de son rêve et se retrouver à la fin de la guerre au milieu d'un champ de ruines sans savoir vraiment quoi faire, si ce n'est comme dit Miyazaki à la fin de Nausicaa, tenter de vivre. Voilà. Donc justement là on retrouve ce que j'appelais ce questionnement extrêmement précaire chez les protagonistes adultes du cinéma de Miyazaki, qui sont toujours des personnages qui ressortent des aventures en partie brisées en quelque sorte, avec une espèce de fêlure qui ne pourra jamais complètement se réparer, mais qui malgré tout doit les amener à continuer à vivre et à tenter de continuer leur route. Voilà. Je pense que c'était à peu près ce qu'on pouvait dire sur le vent se lève.
Oui, et donc moi j'ai une question. Quelle a été la réception d'un tel film au Japon, dans tel contexte ?
Eh bien, elle a été très controversée au Japon et en Corée, pour des raisons différentes. C'est-à-dire qu'au Japon, il a été attaqué par la droite japonaise, qui l'a qualifié d'antipatriote, voire de traître pour les plus violents, parce qu'il y a une extrême droite très forte. Bon, on a les mêmes chez nous, mais je pense vraiment qu'en termes de violence, c'est clairement pas le même niveau, et que même le Front National n'oserait pas faire des choses comme ça, vraiment. Enfin, en tout cas, le Front National de Marine Le Pen. Je parle pas de celui de notre ami Jean-Marie. Voilà. Là, ce serait plus violent, à mon avis. Mais en tout cas, voilà, le traité de traître, et surtout, il a échangé. Parce qu'il a fait un article où il considérait que le Japon devrait donner des réparations financières à ce qu'on appelait les femmes de réconfort, c'est-à-dire des femmes coréennes qui ont servi d'esclaves sexuels à l'armée japonaise, puisque la Corée était sous occupation japonaise, était une colonie japonaise. Voilà, et donc il s'est fait insulter notamment par le vice-premier ministre qui lui a dit qu'il devrait s'occuper de ses films et laisser la politique aux autres, etc. Voilà, et donc il lui a répondu que, en quelque sorte, quand on avait une telle inculture, on devrait se taire. Enfin bon, voilà, donc ils ont fait une espèce de petite passe d'armes médiatique par deux, trois articles interposés qui a pas duré très longtemps. Mais en tout cas, ça montre que, quand même, voilà, que les intellectuels japonais comme Miyazaki ou comme Ueken Zaburo sont pas du tout en phase avec le pouvoir actuel, quoi.
Voilà. Oui, donc en fait, que Miyazaki a un peu une pensée marginale au sein de son espace culturel.
En quelque sorte, oui.
Alors que nous, en France, c'est l'image un peu que nous avons du cinéma japonais.
Exactement, c'est exactement. Mais cette idée de Miyazaki comme le cinéaste humaniste que voit un peu la critique française, je pense plus par facilité intellectuelle, plus que par volonté de nuisance, c'est quand même aussi un moyen de le neutraliser. C'est-à-dire de neutraliser son originalité, parce qu'à la fin, on finit par avoir une vision de lui comme une sorte de personnalité consensuelle, ce qui n'est pas du tout le cas au Japon. Et d'ailleurs, même quand souvent des Japonais apprécient ses films, le vent se lève, ils ne veulent pas en parler très souvent. Ou ils disent qu'ils l'ont pas compris. Il a eu peu de succès au Japon. C'est la première fois qu'un film de Miyazaki a aussi peu de succès, parce que quand les gens sont sortis, ils s'attendaient à voir du merveilleux, des créatures fantastiques, etc. Et puis ils se retrouvaient avec leur passé en pleine figure, quoi. Voilà. Enfin, leur passé, c'est pas leur passé, mais le passé de leur pays, plus exactement. Voilà. Et ça a été. Oui, je pense qu'il a été mal accueilli. Il a été attaqué en Corée parce qu'on considérait au contraire qu'il n'avait pas assez parlé des Coréens et qu'il n'avait pas mis en lumière assez la responsabilité japonaise. Donc vous voyez, il est vraiment, encore une fois, il est pris entre deux feux comme souvent. Voilà.
Oui, l'intérêt de l'exportation finalement en France, c'est que ce genre de problématique ne nous touche pas et qui peut être...
Ah, pas du tout. Oui, non, mais ça, c'est ça qui vient.
Bien plus, voilà, mieux à apprécier finalement.
Oui, mais du coup, ça fait que malgré tout, il sera quand même vu prioritairement par des gens qui aiment l'animation japonaise et qui vont le voir parce que c'est un film d'animation japonaise signé Miyazaki et pas parce que c'est un film intéressant. Mais ça, c'est un autre débat.
Peut-être, oui, qu'ils comprennent pas tous les enjeux.
Qui est encore une autre forme de, neutralisation, si vous voulez.
Oui.
Voilà.
Vous militerez peut-être vous pour une recontextualisation de ces films.
Ah, ça me paraît important, oui, effectivement. Voilà.
Donc, on va peut-être aujourd'hui conclure.
Oh, bah
peut-être
oui,
une dernière chose.
Oui.
Que j'avais envie de vous parler. Est-ce que donc vous montrez que finalement Miyazaki refuse de faire un cinéma à thèse, dans le sens fort, hein.
Oui,
on peut faire un cinéma engagé sans faire un cinéma à thèse.
Exactement.
Et que c'est un peu ce qui caractérise sa pensée politique,
tout à fait.
Ou son interprétation politique.
Je suis tout à fait d'accord.
Film.
Oui, oui.
Oui, c'est...
Non, je suis parfaitement d'accord. Je trouve que c'est un très très bon résumé de tout ça, parce que c'est exactement ça, voilà.
Et que oui, et dans cette distinction entre à thèse et engagé, tout simplement, à thèse, ce serait une volonté d'avoir une vision un peu unilatérale et presque propagandiste. Dans ces films, et qu'on peut dire que ces films échappent finalement à ça. Enfin,
oui.
Ils ne veulent pas tomber dans ce travers-là.
Oui, clairement.
Bon, d'accord. Ben, alors, je vous remercie.
Merci de m'avoir invité, c'est
Monsieur
un plaisir.
Bardi, et je remercie également Bertrand Fubien qui a écouté très attentivement cette émission. Je vais vous laisser alors peut-être avec un dernier son de rap, hein, parce qu'on est quand même à Mountain Was a Thug, rap, littérature et révolution, et qu'aujourd'hui on a plus parlé de cinéma mais que ça fait et de révolution, mais le cinéma est une certaine forme de littérature, on pourrait dire, ou d'art en tout cas narratif. Et donc je vous laisse entamer cette semaine, chers auditeurs, très calmement, très posément, revoyez du Miyazaki, lisez Marx, écoutez Radio Canu et écoutez du rap.
On joue les funambules sur un câble invisible. On jongle avec des bulles. On défie l'impossible. Dans une main la colombe, dans l'autre le calibre. Ah, j'ai beau tendre les bras, je ne trouve pas l'équilibre.
Face au vent, je ne fais pas de poids. Ma plume n'a qu'une masse dérisoire. Pieds nus sur le fil du rasoir. Et sous nos yeux la balance s'incline. Là où la gravité s'obstine, le malaise s'imprime, comme si la seule rime au mot inégalité était fatalité. Comme si la seule figure imposée était d'être bien né. Ici et là le contraste est saisissant. Nous sillons l'arbre sur lequel nous sommes assis. On fait avec ici et là-bas ils font sang. C'est un signe mais à ce qu'on dit c'est ainsi. Rêve d'un ouzi factice sous le sapin. Là-bas de l'acier trempé entre ses petites mains. Sous un pied mes racines, sous l'autre le sol vibre. J'ai beau tendre les bras, je ne trouve pas l'équilibre. On joue les funambules sur un câble invisible. On jongle avec des bulles, on défie l'impossible. Dans une main la colombe, dans l'autre le calibre. J'ai beau tendre les bras, je ne trouve pas l'équilibre.
Je roule en ambulance dans ma bulle, en funambule. Sur le fil de ma vie, je m'envole avec une plume. Oublie l'équilibre équitable, pour que les uns soient libres, faut que les autres soient stables. Quel enfoiré, c'est ce qui est bon ou mauvais. Je navigue entre les bords avec des rames de poète. Au cours, pour faire sa place assise, pour finir couché entre six chaises vides. Malgré tout, on s'accroche à la banquise, parce que l'iceberg cache une pyramide. De quel côté des barreaux sommes-nous les plus libres? J'ai beau tendre les bras, je ne trouve pas les plus libres.
On joue les funambules sur un câble invisible. On jongle avec des deux, on défie l'impossible. Dans une main la colombe, dans l'autre le calibre. J'ai beau tendre les bras, je ne trouve pas l'équilibre.
On joue les funambules sur un câble invisible. On jongle avec des bulles, on défie l'impossible. Dans une main la colombe, dans l'autre le calibre. J'ai beau tendre les bras, je ne trouve pas l'équilibre.
En attendant la chute de l'acrobate, on compte les minutes puisque l'échec fait de l'audimat. Pour les uns, l'impact sera ce qu'il sera. Pour d'autres, un parachute 24K.
À force de se relever, rester sincère, on s'aperçoit que bien des mots sont nécessaires. Que les mêmes mots apaisent ou bouleversent. Selon la balance, elle te jette ou te perce.
On joue les fakirs avec un seul clou. On vise la pomme sur ta tête avec une vision floue. Une roulette russe, le pareil est plein de balles. En attendant la chute, roulement, tambour avant le coup de cymbale.
Tout droit sur le cap Horn, bâtir un château de cartes à la vue qui cartonne. Laissez-moi attraper, je vais combler des lacunes. Sur une échelle, appuyer sur la lune.
Sur un câble invisible, on jongle avec des bulles, on défie l'impossible. Dans une main la colombe, dans l'autre le calibre. J'ai beau tendre les bras, je ne trouve pas l'équilibre.
On joue les funambules sur un câble invisible. On jongle avec des bulles, on défie l'impossible. Dans une main la colombe, dans l'autre le calibre. J'ai beau tendre les bras, je ne trouve pas l'équilibre.